Décidément, la France et compagnie, en Bourbée et Haï, au Sahel et surtout au Mali, comptent mettre en œuvre de nouveaux scénarios de déstabilisation pour redorer leur blason et trouver une lueur d'espoir afin de pouvoir poursuivre leur plan maléfique au Sahel. Depuis quelques jours, les médias mainstream ne cessent de souligner les désaccords entre le gouvernement et les groupes armés du Nord, signataires de l'accord de paix de 2015. La France tente clairement de raviver le défunt accord d'Alger visant à démembrer le Mali. RFI fait état ce 17 mars d'une réunion tenue entre le ministre malien de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaïl Ouagué, et les groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix de 2015. Objectif, selon RFI, finaliser l'accord de principe, signé à Rome début février, et remettre l'accord de paix sur les rails, alors que son application, déjà laborieuse depuis sa signature, est aujourd'hui carrément menacée. Alors l'armée malienne avance sur le terrain et ne cesse de neutraliser les terroristes dans plusieurs régions, dont celle du Nord. Barkhane ici cherche à implanter Daesh au nord du Mali, histoire de donner l'image d'une FAMA incompétente, mais également de semer la zizanie entre les habitants du Nord et le gouvernement. Plusieurs dizaines de personnes, dont des civils, ont été tuées ces derniers jours dans le nord-est du Mali par des membres de l'EIGS. De son côté, par voie de communiqué publié mardi soir et consulté par l'agence Anadolu, l'état-major général des armées du Mali a fait savoir que les forces armées maliennes ont mené le 13 mars 2022 des opérations aéroterrestres dans le secteur de Ménaka suite aux attaques terroristes contre les populations, précisant que les frappes aériennes sur les zones refuges ont permis de desserrer l'étau et briser l'élan des groupes terroristes dans les zones de Ménaka, André Mambuku, Ishinane Arodi, Infokaroten, Inaraban, Tabankor, Tamalat, avec de nombreuses pertes infligées dans leur rang. Alors, où les Maliens ont œuvré pour mettre dehors la France, il est clair qu'ils ne veulent pas que leurs agents, qui se trouvent justement parmi ces groupes du Nord, restent également au Mali et tentent de saper la politique souverainiste du Mali. De son côté, le gouvernement de transition est resté sur ses gardes et a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de relire l'accord de paix ou de l'appliquer intelligemment. Une décision qui ne plaît guère à l'axe occidental, qui dit que les groupes armés du Nord dénoncent la mauvaise volonté de l'État dans la mise en œuvre de cet accord. Certaines sources directement impliquées craignent même que la situation ne se dégrade au point de conduire à une reprise des affrontements. C'est finalement cela que la réunion de Gao doit permettre d'éviter, poursuit RFI. L'axe colonialiste annonce clairement qu'il y aura de nouvelles tentatives de déstabilisation dans le Nord. L'État malien doit être sur ses gardes et surtout vigilant face aux nombreuses manœuvres en cours pour faire payer cher au Mali et le renvoi des forces françaises. Au Mali, tout le monde le sait, la France ne compte pas en rester sur un échec. Le seul qui a réellement le pouvoir de changer les choses, c'est bien la population, car elle n'est pas enchantée par des accords coloniaux, mais seulement exposée à des manipulations de toutes sortes par les États occidentaux. Et ces manipulations n'ont plus du tout d'effet sur les Maliens. Les terroristes s'étendent à travers l'Afrique, à la fois en termes d'avancées géographiques et d'influence, et les efforts américains de lutte contre le terrorisme ne sont pas satisfaisants. Nous devons faire plus, nous devons faire mieux. Ce sont les propos du général Stephen Townsend, chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, dans un récent point de presse. Pour le militaire américain, la situation dans le Sahel est particulièrement inquiétante. Il épingle le fait que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans continue de s'étendre en progressant vers les États côtiers. C'est clairement une déclaration de guerre US-OTAN contre le Niger et le début d'une extension du QG des opérations occidentales en Afrique de l'Ouest, dans l'objectif d'étendre les actions militaires, alors qu'on sait très bien que les armées nationales des pays de l'Afrique de l'Ouest sont elles-mêmes en train de contrer les résurgences terroristes sans avoir besoin de l'aide de quelconque pays occidental. Là où l'Occident se voit incapable de faire face à la population africaine, il resserre l'étau autour du pays cible en renforçant les agissements terroristes afin de ternir l'image de l'armée nationale et appuyer sur l'idée de l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité. D'un autre côté, le président de la République, Mohamed Bazoum, s'est entretenu dans l'après-midi de ce mardi 15 mars 2022 avec le président du conseil d'administration du Global Community Engagement and Resilience Fund, ou Fonds global pour la résilience à l'extrémisme violent, M. Stefano Manservisi, qui a annoncé le lancement d'un projet de 1,5 million de dollars de ce fonds. Mais dans le contexte actuel, où les Américains s'agitent dans l'ombre, est-il dans l'intérêt du Niger d'accepter des fonds d'une ONG aussi louche qui est le Fonds global pour la résilience à l'extrémisme violent? Une ONG qui se dit vouloir réhabiliter le tissu social n'est-il pas une façon de recruter de nouvelles gants maintenant que le Sahel a réussi à neutraliser le projet du terrorisme au Mali, au Burkina et au Niger? Le Niger, tout comme le Mali et le Burkina, et en dépit de la présence de la grande base US à Agadez, a jusqu'ici fait échec au plan néocolonialiste, et il y a également une prise de conscience collective à travers tout le Sahel qui s'étend au Burkina, au Niger et au Mali, et qui fait capoter les plans B des forces d'occupation. L'heure est à la révolte interafricaine et la seule chose qui pourrait l'apaiser, c'est bien le départ définitif des troupes d'occupation étrangères. En Gambie, le nombre de déplacés et de réfugiés continue de grandir après le début, dimanche 13 mars, d'une opération militaire sénégalaise d'envergure au nord de la Casamance. Depuis le week-end, de nombreuses communautés accueillent des personnes qui ont fui les détonations et coups de feu, notamment à Bujinga, dans le district de Foni, du côté gambien de la frontière. Nous avons évoqué la situation avec Luc Michel, géopoliticien.
Bien entendu, le conflit en Casamance, c'est un des plus vieux conflits sécessionnistes africains, puisqu'il date de 1982. Il n'y a qu'un autre mouvement sécessionniste plus ancien, c'est le mouvement du Biafra, qui est toujours présent au Nigeria. La situation de la Casamance, elle a changé géopolitiquement. Précisément, il y avait un régime souverainiste en Gambie, celui de Yahya Jammeh, et il était opposé à Macky Sall, qui à l'époque, je dis bien à l'époque, était l'allié des Occidentaux. Yahya Jammeh soutenait le mouvement Casamance contre le Sénégal, et lorsque le Sénégal est intervenu militairement en Gambie et a changé le régime, on a cru que les choses allaient terminer. Mais à ce moment-là, le mouvement sécessionniste de Casamance a été repris en main par les Occidentaux et surtout par les Américains. Depuis, Macky Sall a entrepris un retournement géopolitique à 180 degrés. Il est maintenant l'allié principal dans le domaine du gaz de la Russie et surtout de l'Iran, et il a une position souverainiste. Il a pris position contre George Soros. C'est le seul régime avec la Guinée équatoriale qui a entrepris une action judiciaire internationale contre les réseaux de George Soros. Et donc, les Occidentaux se servent du mouvement de la Casamance pour faire des problèmes au Sénégal, affaiblir le régime et évidemment s'amener l'armée. Il faut savoir que Macky Sall est l'objet d'une tentative de révolution de couleur rampante qui a commencé lors de la dernière présidentielle, avec notamment l'opposant Sonko, qui se présente comme panafricaniste, mais qui est en fait est l'homme des réseaux de George Soros. La tentative de révolution de couleur s'est continuée pendant les municipales et les élections, et il faut s'attendre à ce que le processus continue. Voilà donc l'enjeu aujourd'hui de la Casamance. Ce n'est pas les problèmes que le Sénégal avait avec la Casamance du temps de Yahya Jammeh. C'est la méthode habituelle des Occidentaux, c'est de susciter un mouvement sécessionniste pour affaiblir un régime. Ils font ça avec le Tigré en Éthiopie contre Abiy Ahmed. Ils font ça contre Paul Biya au Cameroun avec le mouvement amazonien, mais aussi la nouvelle question Kadhoury, qui est soulevée par l'ambassade des États-Unis, qui veut en faire la question des Ouïghours au Cameroun. Il y a d'autres pays, évidemment, où les mêmes méthodes sont employées un peu partout. L'utilisation de mouvements dissidents à l'époque moderne ne fait que renouer avec les méthodes des Occidentaux au moment du colonialisme. Les colonialistes sont emparés des États africains existants au XIXe siècle en utilisant des mouvements déjà dissidents, des royautés, des petites royautés qui étaient en action contre les grands. Par exemple, le roi Léopold II s'est emparé du Congo avec moins de 400 officiers et sous-officiers belges qui encadraient des troupes coloniales recrutées à la frontière de l'Angola contre les populations actuelles de la région de Kinshasa et de la région du Katanga.
Près de 9 millions de personnes au Sénégal ont pu bénéficier d'une couverture du risque de maladie à la fin de l'année 2020. L'annonce a été faite hier mardi lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur la mutualité par Rachel Colibucal, secrétaire générale du ministère du Développement de l'équipe sociale et territoriale, rapporte Le Quotidien. Au 31 décembre 2020, le taux de couverture du risque de maladie enregistré est 53,2%, tout régime confondu, ce qui a permis d'assurer une couverture du risque de maladie à 8 889 741 habitants sur une population totale en 2020 de 16 millions d'habitants, a-t-elle soutenu. Elle a également ajouté en termes de financement, l'État a mobilisé plus de 15 milliards de francs CFA au titre de subventions accordées aux organisations mutualistes à travers l'agence de la CMU. Le Togo adopte un nouveau plan national d'attribution des bandes de fréquences. L'information émane du dernier Conseil des ministres ce mercredi 16 mars 2020, au cours duquel l'exécutif a examiné et adopté un projet de décret portant approbation du plan national d'attribution des bandes de fréquences radioélectriques. Si cette démarche vise à s'harmoniser aux recommandations de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2020, il s'agit surtout de s'adapter au développement des réseaux mobiles de cinquième génération, selon le relevé du Conseil. Rappelons que le Togo est l'un des premiers pays d'Afrique de l'Ouest à se lancer dans l'implémentation de la technologie 5G avec l'opérateur télécom Togocom, qui a commencé son déploiement sur plusieurs sites de la capitale Lomé. Au Cameroun, le gouvernement offre gratuitement l'Internet haut débit aux startups pour promouvoir les technologies de l'information et de la communication. À l'occasion de la traditionnelle semaine de l'innovation numérique organisée par le ministère des Postes et des Télécommunications du 15 au 18 mars 2020, 35 startups installées à la Silicon Moutin, terreau des technologies de l'information et de la communication de la ville de Bouéa dans la région du Sud-Ouest, ont reçu gratuitement des kits de connexion à l'Internet haut débit pour un an. À travers cette initiative, la ministre Minette Libom-Li-Likeng matérialise une promesse faite à ses passionnés des technologies de l'information et de la communication de Bouéa en juin 2021. Il s'agit pour le gouvernement camerounais de multiplier les initiatives pour l'encadrement des porteurs de projets afin de faire émerger une stratégie locale via le développement des contenus numériques « Made in Cameroun », a expliqué la ministre. Au Burkina Faso, l'armée veut rappeler ses retraités mobilisables. Au Burkina Faso, le président de la transition Paul-Henri Sandaogo Doumbia lance une mobilisation des militaires à la retraite. Face à une recrudescence des attaques attribuées aux groupes armés terroristes, le chef de l'État veut renforcer les effectifs. Tous les sous-officiers militaires du rang partis à la retraite ces trois dernières années sont appelés à rejoindre les forces armées jusqu'au 18 mars au titre de la réserve. Dans le document daté du 10 mars et signé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, président du FASO, il est mentionné que cette mobilisation est demandée pour les besoins de la nation sans autre précision. Cette mobilisation concerne les sous-officiers et soldats du rang admis à la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021.